Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Midi 30, bienvenue dans le journal de la mi-journée. Et à la une, l'annonce il y a quelques minutes par l'Élysée du départ du chef de l'état-major des armées, le général Lecointre, quitte ses fonctions à sa demande. Il va être remplacé par le général Thierry Bucard. Un départ demandé de longue date, dit l'Élysée, et qui n'est pas en lien avec la récente polémique autour des tribunes des militaires, nous dira Louis de Raguenel. Dans l'actualité, deuxième fête sauvage sur les Invalides hier soir et nouvelles évacuations des forces de l'ordre. Marlène Schiappa ce matin sur Europe 1 en appel au respect des gestes barrières. Le retour dans les heures qui viennent en France de Rémi Daillet, le gourou complotiste suspecté d'avoir organisé l'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges. Il a été expulsé avec sa famille par les autorités malaisiennes pour ses jours irrégulier. L'actualité sportive est état stable pour le Danois Eriksen après son malaise cardiaque hier soir en plein match à l'Euro. Il a pu parler à ses coéquipiers. Le tennis est une finale inédite à Roland-Garros entre Djokovic et Tsitsipas et un choc de génération, nous dira Axel May. Et puis à 12h45, nous reviendrons sur la tournée européenne de Joe Biden. Premier déplacement du président américain à l'étranger. G7 OTAN, est-ce que l'Amérique est de retour et pour quel rôle? On posera la question à la spécialiste des États-Unis, Nicole Bacharan. Enfin, la météo, et c'est la chaleur qui est au rendez-vous avec des températures qui vont grimper jusqu'à 37 degrés dans le sud-est, nous dira Valérie Darmon.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et pour commencer, je vous le disais, cette annonce de l'Élysée il y a quelques minutes, le départ du chef d'état-major des armées, le général Lecointre, en poste depuis juillet 2017 et la démission choc du général De Villiers. Cette annonce intervient dans un contexte particulier, notamment ces deux récentes tribunes de militaires. Est-ce que cela explique ce départ, Louis de Raguenel ?
Clairement, non. Aucun lien avec la publication de la tribune des militaires. En fait, le général Lecointre, qui avait succédé au général De Villiers, avait fait part de son intention de quitter ses fonctions il y a déjà quelques temps. Selon nos informations, il avait parlé de son souhait de prendre sa retraite à Emmanuel Macron avant Noël. Un Emmanuel Macron qui tient à saluer un grand soldat, un chef militaire, un serviteur de l'État. Le général Lecointre défilera donc une dernière fois en tant que chef d'état-major des armées le 14 juillet prochain. Et c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Burkhard, qui lui succédera.
Et chez nos confrères de LCI, le général Lecointre dit que c'est son choix de quitter ce poste. Le communiqué de l'Élysée qui précise effectivement qu'il y a plusieurs mois, il avait soumis au président de la République sa demande de quitter le service actif après le 14 juillet 2021. Le président de la République qui tient à saluer en lui le grand soldat, le chef militaire et le serviteur de l'État. Fin de citation. Écoutez la réaction du général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Pour lui, il s'agit d'éviter une politisation du poste du chef d'état-major des armées.
Ce n'était pas une surprise. Tout le monde en parlait depuis assez longtemps. Il y a deux critères qu'il faut retenir. Le premier, c'est que le général Lecointre a atteint l'âge normal auquel on peut partir à la retraite. C'est le premier point. Et le deuxième point, il vient d'expliquer très clairement, c'est une décision qu'il a prise de ne pas faire coïncider son départ avec l'éventuelle durée d'un mandat présidentiel. Le général Lecointre est très à cheval là-dessus et il a raison. Il faut garder la neutralité des armées. Il a bien précisé d'ailleurs, je ne sers pas le président Macron, je sers le président de la République. Et donc il sert par là la France. Et il s'agit de bien remettre les choses d'aplomb après toutes les discussions qu'il y a eu sur la politisation éventuelle des armées. L'armée est neutre.
Le décryptage du général Dominique Trinquant qui répondait à Yasmina Katou, donc après l'annonce par l'Élysée il y a quelques minutes du départ du général François Lecointre de son poste de chef d'état-major des armées. Départ qui sera effectif après le défilé du 14 juillet.
Fabienne Lemoyle vous informe sur Europe 1.
Est-ce l'approche des grandes vacances, le beau temps avec, même nous dira Valérie Darmon dans quelques minutes, des températures qui n'arrêtent pas de grimper puisqu'on devrait dépasser les 30 degrés sur la plupart des régions aujourd'hui. En tout cas, il y a comme une envie de faire la fête et de s'affranchir des gestes barrières en laissant tomber un peu trop le masque quand le soir approche, alors que la crise sanitaire n'est pas encore derrière nous. Exemple encore hier soir sur l'esplanade des Invalides à Paris avec une nouvelle fête sauvage et une nouvelle fois les forces de l'ordre qui ont dû intervenir, Romain Noquet.
Il y avait des centaines et des centaines de jeunes qui étaient en train de danser et il y avait plein d'enceintes.
Sur les réseaux sociaux, ouais. Tout le monde a partagé et on est tous venus. Donc là, dans la foule, on voit que les distanciations, il n'y en a pas.
Je m'attendais à ce que ça parte un peu en vrille.
Toi, par exemple, t'as pas de masque.
Non, moi, j'ai pas de masque, j'ai pas mis de masque de la soirée, mais...
C'est, comment ça a dégénéré?
Parce que en plus, là, c'est même pas le couvre-feu encore, mais les CRS sont venus et du coup, bah, tout a pété, quoi.
Les personnes sont interdites, donc vous restez en groupe de 10, vous procédez en verbalisation.
Là, il y a un mouvement de foule parce que les forces de l'ordre chargent, tout le monde court dans un nuage de gaz lacrymo. Est-ce qu'il y a un peu de provocation là avec les forces de l'ordre ou...
C'est pas tant aller faire chier les forces de l'ordre, mais c'est plutôt essayer d'avoir justement cette adrénaline qu'on n'a pas forcément tous les jours.
Beaucoup de morceaux de verre par terre également. On va s'éloigner.
C'est dommage quoi. Ça...
Ouais, ils lancent des bouteilles et sur la police alors qu'ils sont juste là pour maintenir l'ordre, mais.
C'est une soirée gâchée, voilà.
Il est 23h. Et l'esplanade des Invalides a été évacuée.
Faut pas s'étonner, il y aura forcément une prochaine fois.
Il y a déjà des trucs qui tournent pour revenir sur les Invalides?
Ah oui, bien sûr.
T'en feras partie?
Ouais. Si c'est pour faire la fête, je reviendrai.
Voilà, si c'est pour faire la fête, je reviendrai. Reportage de Romain Hoquet sur l'esplanade des Invalides hier soir à Paris. Et ce matin sur Europe 1, Marlène Schiappa, la ministre de la Citoyenneté, est revenue sur les raisons qui ont conduit les forces de l'ordre à évacuer l'esplanade.
Je comprends et je partage évidemment l'envie de ces jeunes et de ces personnes de se retrouver et de faire la fête. Je rappelle qu'il reste encore environ 12 000 personnes en ce moment qui sont hospitalisées parce qu'elles souffrent de formes graves de Covid-19. La situation s'améliore, la vaccination avance, mais le virus est toujours là. On est encore en train de porter des masques, il faut encore utiliser du gel hydroalcoolique. Et donc il convient de respecter les mesures sanitaires. C'est pour leur propre sécurité qu'ils ont été évacués. Ça a pris du temps parce que l'idée était justement de faire le moins possible usage de la force en essayant de faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement. C'est vrai que ça fait 15 mois qu'il y a des restrictions, c'est extraordinairement difficile, mais le virus est toujours là. La pandémie existe encore.
Marlène Schiappa qui était l'invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Autre témoignage de ce relâchement, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande des sanctions après le non-respect des règles sanitaires lors du match de rugby. Biarritz-Bayonne, un match de barrage d'accession au top 14 remporté par Biarritz avec jauge non respectée et notamment vente d'alcool. Le gourou complotiste Rémi Daillé est suspecté d'avoir organisé depuis la Malaisie l'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges en route vers la France. Il est actuellement en transit à Singapour. Il pourrait être interrogé très vite après son arrivée sur l'affaire de la petite Mia, même s'il a été expulsé par les autorités malaisiennes pour séjour irrégulier. Marion Dubreuil.
Oui, les visas de Rémi Daillé-Videman, sa compagne enceinte et leurs trois enfants à charge installés en Malaisie depuis 2016 étaient arrivés à expiration. La procédure d'extradition dans le cadre de l'affaire de l'enlèvement de Mia aurait été beaucoup plus longue. Leur avocat, Jean-Christophe Basson-Larbi, dénonce une manœuvre politique de l'État français.
Ce n'est pas une extradition, c'est une expulsion. Expulsion qui a été orchestrée savamment par les services de l'ambassade de France en Malaisie, forçant ensuite la main à la police royale malaisienne pour qu'ils aillent rafler Rémi Daillé-Videman et sa famille chez eux. Il faut bien comprendre que cette famille sort d'un enfer carcéral de 15 jours. Monsieur Daillé-Videman était en grève de la faim. Il a vu sa femme et ses enfants pris en otage. Que pour le moment, Monsieur Daillé-Videman n'est pas en train de préparer son éventuelle défense sur le dossier de l'enlèvement dit de la petite Mia.
À son arrivée sur le sol français, deux options attendent Rémi Daillé-Videman. Soit il est immédiatement présenté à un juge d'application des peines de Bobigny en vue de son placement en détention provisoire. Soit il est transféré à Nancy pour être mis en examen dans le dossier de l'enlèvement de Mia. Dans tous les cas, la justice ne prendra pas le risque d'une sortie du territoire français.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
Europe Midi. Fabienne Lemoyle.
Allez, on marque une pause à 12h39 et dans un instant, direction Roland-Garros, finale homme inédite et aussi choc de génération. Et c'est donc à une finale homme totalement inédite qu'on va assister entre le numéro 1 mondial Djokovic qui a détrôné Nadal et le grec Tsitsipas cet après-midi à 15h sur le court central à Roland-Garros, mais aussi un choc de génération, Axel May.
Oui, Tsitsipas, 22 ans, 5e mondial, première finale en Grand Chelem. Face à lui, Djokovic, 34 ans, numéro 1 à l'ATP, déjà 28 finales de Grand Chelem disputées, dont 18 gagnées. Le jouvenceau grec, revers à une main remarquable, veut entrer dans l'histoire de son pays en soulevant la Coupe des Mousquetaires. Le joker serbe, auteur vendredi d'un match stratosphérique, espère revenir à une longueur du record de tournoi majeur codétenu par Nadal et Federer. Notre consultant Cédric Pioline s'interroge aussi sur leur faculté de récupération.
Ces deux finalistes ont eu deux demi-finales difficiles, une en 5-7 pour le grec, une en 4-7 pour le serbe, avec une dépense d'énergie physique bien entendu, émotionnelle également des deux côtés, mais beaucoup plus d'expérience pour le serbe.
Et c'est d'ailleurs une inconnue majeure, comment Tsitsipas gérera-t-il les émotions d'une première finale? Mais de l'autre côté, Djokovic ne risque-t-il pas de penser qu'il a fait le plus dur en battant, vendredi, le maître des lieux, Nadal? L'an dernier, les deux hommes s'étaient affrontés à Roland-Garros en demi-finale. Tsitsipas, légèrement touché à une jambe en fin de partie, n'avait cédé qu'au bout de 5-7.
Voilà, Axel May, qu'on retrouvera avec Corinne Boulou pour cette finale 100% inédite à partir de 15h sur Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. L'actualité sportive, c'est aussi cette image qui va rester pour l'Euro de football et qui est à la une de toute la presse sportive européenne ce matin. Le Danois Eriksen, inconscient sur le terrain hier à Copenhague, ces longues minutes où il est dissimulé par des draps alors qu'on le ranime et puis sa sortie sur une civière de nouveau conscient. Le match a finalement eu lieu, les Danois sous le choc battus par la Finlande à 1-0. Mais ce qu'on a surtout envie de savoir, Simon Rubin, c'est comment va le joueur ce matin? Quelles sont les nouvelles?
Alors son état est stable, hein. Il est toujours hospitalisé avec des examens complémentaires à faire. Il est réveillé, conscient, il a envoyé de nombreux messages à ses proches. Il a aussi été de nouveau en contact avec ses coéquipiers de l'équipe du Danemark ce matin. On sait aussi qu'Eriksen n'avait aucun antécédent cardiaque. Ça c'est le cardiologue de son ancien club Tottenham qui le dit, hein, club qu'Eriksen a quitté l'an passé. Et puis évidemment, ce qui s'est passé a beaucoup affecté l'ensemble de l'équipe du Danemark qui rejoue jeudi contre la Belgique. Raison pour laquelle la fédération vient d'envoyer des psychologues auprès de l'équipe. La conférence de presse et séance d'entraînement qui étaient prévues ce matin ont été annulées et la journée va être dédiée aux discussions, au traitement de ce qui constitue quand même pour cette équipe un traumatisme, même si Eriksen semble tiré d'affaire.
Alors Simon, on va revenir au programme du jour et au match du jour avec un choc Angleterre-Croatie.
Ah oui, c'est une affiche que tout le monde attend avec une certaine excitation. Angleterre-Croatie, c'était déjà l'une des deux demi-finales de la Coupe du Monde 2018. À l'époque, les Croates avaient gagné, mais depuis, l'équipe de Croatie vieillissante fait un petit peu moins peur. Et c'est exactement l'inverse pour l'Angleterre. Une équipe qui a pris de l'expérience avec une jeune génération dorée, des Anglais qui vont devoir tenir leur rang, hein, eux qui sont considérés comme parmi les plus redoutables rivaux des Français dans la course au titre. Coup d'envoi 15h.
Merci beaucoup Simon Rubin. Et puis on va prendre des nouvelles des Bleus. Il ne devrait pas y avoir de problème concernant la présence de Karim Benzema et Antoine Griezmann contre l'Allemagne mardi pour leur premier match. C'est ce qu'a déclaré ce matin le sélectionneur Didier Deschamps chez nos confrères de TF1. Il nous reste à voir le temps de ce dimanche.
La météo avec l'assurance habitation BNP Paribas. L'assurance habitation qui s'adapte à vos besoins. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
Et on l'a bien compris, on le sent déjà, il va faire chaud, Valérie Darmon.
Effectivement, cet après-midi, les thermomètres grimpent entre 32 et 37 degrés au sud de la Loire et sur le sud-est, entre 27 et 31 en général au nord, 21 à 26 sur les côtes de la Manche. Et prudence, prudence surtout en Occitanie, première très forte chaleur de l'année avec 35 à 38 degrés à l'ombre, hein, pour un ressenti au soleil de 40 à 44 degrés en plein soleil. Météo France annonce 37 à Perpignan, 36 à Nîmes, 35 à Bordeaux, 34 à Montpellier et Carcassonne, 32 à Marseille, à Valence et Grenoble, 31 à La Rochelle, 28 degrés en région parisienne, 25 à Nice, à Lille et au Havre. Et du côté du ciel, excepté quelques bourgeonnements et des ondées isolées sur les reliefs des Pyrénées et des Alpes du Sud, eh bien rien à signaler. Le soleil s'impose depuis ce matin et il va briller jusqu'à ce soir.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe Midi. Fabienne Lemoyle.
À suivre, c'est donc l'Europe que Joe Biden a choisi pour son premier voyage à l'étranger. Grosse tournée, agenda très chargé. G7 au Cornouailles, sommet de l'OTAN demain à Bruxelles. Rencontre avec les dirigeants européens et rencontre avec Vladimir Poutine mercredi à Genève. Alors est-ce le signe, comme l'a lancé le président américain à son arrivée, que les États-Unis sont de retour et pour jouer quel rôle? On pose la question dans un instant à la spécialiste des États-Unis, Nicole Bacharan. Les États-Unis sont de retour. Voilà ce qu'a lancé une nouvelle fois Joe Biden en arrivant en Europe avec un agenda, je vous le disais, très chargé pour son premier déplacement à l'étranger, G7, sommet de l'OTAN et rencontre mercredi à Genève avec Vladimir Poutine. Bonjour Nicole Bacharan.
Bonjour Fabienne.
Politologue spécialiste des États-Unis, merci beaucoup d'être avec nous ce midi en studio sur Europe 1. On va revenir sur le rôle que comptent jouer les États-Unis avec ce slogan « America is back ». Mais déjà, ce choix de l'Europe pour son premier voyage à l'étranger de Joe Biden n'est pas anodin quand on se souvient que Trump était allé en Arabie Saoudite. Lui, ça dit quoi ?
C'est vrai que l'Arabie Saoudite, c'était une première. En général, les présidents américains voyagent très vite. Ils arrivent en janvier et très vite, ils voyagent. Et souvent, ils vont voir les voisins, le Mexique, le Canada, et ensuite, ils vont plus loin. Pandémie oblige, Joe Biden ne s'est pas encore déplacé. Mais choisir l'Europe, et choisir l'Europe pour longtemps, un long séjour, beaucoup de sommets, beaucoup de rencontres, c'est évidemment montrer que l'Europe est sa priorité pour sa diplomatie mondiale.
Alors, ça veut dire que les Européens sont de nouveau des alliés. Et pour faire quoi ? Et j'ai aussi envie de dire, contre qui ? Parce qu'on sait que l'ennemi, entre guillemets, pour Joe Biden, c'est la Chine. Et là, les Américains, les Européens, plutôt, j'ai envie de dire, ne vont pas tous forcément être d'accord pour avoir en ligne de mire la Chine comme ennemi, puisqu'on voit les bonnes relations, par exemple, qu'ont l'Allemagne avec le Pékin.
C'est certainement le dossier le plus épineux dans ces rencontres américano-européennes. Grosso modo, même s'il faut affiner, on est d'accord sur le climat, on est d'accord sur la vaccination mondiale, on sait qu'il faut améliorer, c'est le moins qu'on puisse en dire, les accords commerciaux, les taxes entre pays européens et les États-Unis. Mais la vision de la Chine, elle diffère. Autant aux États-Unis, républicains et démocrates sont assez d'accord pour analyser la Chine comme une puissance menaçante.
Pourquoi menaçante pour eux ?
Menaçante parce que, étant passé de autoritaire à ultra-autoritaire, avec un président à vie, évidemment le génocide des Ouïghours et beaucoup d'autres questions, Hong Kong, etc., menaçante en matière de cybersécurité, menaçante dans la mer de Chine du Sud, là carrément sur le plan militaire, sur les chaînes d'approvisionnement, avec ces fameux semi-conducteurs dont on a tous besoin.
Avec une grande pénurie qu'on a vue pendant la crise sanitaire.
Exactement. Peur donc de tout ce qui est surveillance électronique et la manière dont ça peut être utilisé. Et puis, peur de l'influence politique, financière, économique grandissante de la Chine au service d'un régime autocratique et s'opposant donc à l'influence des démocraties en Asie, en Afrique et même en Europe à travers les fameux investissements chinois qu'on appelle les routes de la soie.
Alors vous le disiez, Nicole Bacharan, Trump était dans une logique isolationniste ou pour le moins America first. Il était sorti de l'accord de Paris, il avait dénoncé l'accord sur le nucléaire iranien. Là, avec Joe Biden, on voit le retour dans l'accord de Paris, le retour aussi dans l'Organisation mondiale de la santé, donc un changement de cap. Est-ce que ça veut dire que Biden, justement, veut devenir le fer de lance avec derrière lui l'Europe ?
Mais je rajouterais aussi même le vrai retour dans l'OTAN. Car même s'il n'y avait pas eu de départ officiel, au fond, Trump avait présenté l'OTAN comme une espèce de club où si on n'avait pas payé ses cotisations, on n'était pas sûr d'être protégé. Donc Joe Biden réitère l'engagement américain sur le fameux article 5, comme les trois mousquetaires, tous pour un pour tous, hyper important évidemment en matière de sécurité. Mais il souhaite redevenir le leader de ce qu'on pourrait appeler le monde libre. Les Européens parlent plus de coopération que de leadership. Et sur la Chine, pour le coup, non seulement il y a une division vis-à-vis des États-Unis, mais il y a une division entre Européens. Vous avez rappelé que l'Allemagne vend l'essentiel de ses voitures en Chine. L'Italie a eu quand même des accords avec la Chine pendant la pandémie pour une aide médicale, une aide sur le plan matériel. La France est un peu plus dure, mais moins dure que les États-Unis.
Alors justement, la France, là c'est vrai que ce G7 des Cornouailles, c'est l'occasion de retrouvailles, c'est-à-dire on a vu ces tapes amicales d'Emmanuel Macron dans le dos de Joe Biden. C'est vraiment une entente cordiale où il y a quand même, on va dire pas de la jalousie, mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron a prôné une stratégie d'autonomie européenne et que cette Biden mania, ça l'agace un petit peu quand même.
Oui, je crois qu'il l'a marqué, pas directement au G7, mais dans la petite période précédente.
C'est quoi les vraies relations entre tous les deux qui se parlent d'ailleurs en anglais ?
Je pense qu'ils se comprennent, je pense qu'ils sont d'accord sur le fond, à savoir qu'il y a une menace autoritaire contre les démocraties, à la fois des puissances lointaines comme la Chine, mais à l'intérieur de nos pays. En France, Emmanuel Macron sait très bien qui sera son adversaire. Aux États-Unis, là, on ne peut pas dire que les choses soient stables malgré le départ de Donald Trump. Ça, sur le fond, ils sont d'accord. Maintenant, la rivalité entre un président français et américain, elle est ancienne comme l'histoire de ces deux pays. Et malgré tout, eh ben, le président français est à la tête d'une puissance plus petite que l'américain. Donc il y a toujours un peu de friction, de volonté de marquer sa différence, de défendre des intérêts qui sont proches, mais pas tout à fait les mêmes. Mais je pense qu'ils travailleront bien ensemble, pour autant que la forme partenariat plutôt que leadership soit respectée.
Alors Nicole Bacharan, on va terminer avec ça. L'un des points forts, le point d'orgue, j'ai envie de dire, de cette tournée européenne, même si c'est mercredi à Genève, j'ai envie de dire en terrain neutre, ce sera la rencontre entre Poutine et Biden. Biden qui a quand même dit que le Russe était un tueur. Il faut s'attendre à quoi ?
Il faut s'attendre à une discussion en petit comité, musclé et calme, parce que l'un et l'autre ont intérêt à continuer à se parler. Ils se parlent au téléphone fréquemment. Il y aura une réunion entre les deux présidents, une réunion avec vraiment le petit cercle immédiat de leurs assistants en matière de politique étrangère. Pas de conférence de presse commune. Les Américains n'en veulent pas s'afficher ensemble. Donc on ne va pas sortir sur le perron en expliquant que finalement on a beaucoup avancé et qu'on s'entend bien. Pas du tout. Ça avait été très mal ressenti aux États-Unis quand, souvenez-vous, je remonte un peu loin, George W. Bush avait dit « J'ai regardé Vladimir Poutine dans les yeux et j'ai vu son âme. » Oups. Obama avait fait une conférence de presse commune et il avait été accusé aux États-Unis de mettre Poutine en valeur, au fond de lui prêter un micro qui n'était pas forcément bien utilisé. Et puis, désastre complet avec Donald Trump en 2018, qui, sur la question de l'interférence russe dans les élections de 2016, avait dit « Ben moi, il m'a dit qu'il n'y en avait pas eu, et je le crois. » Et là, tollé général, parce que c'était vraiment la conclusion de toutes les agences de renseignement américaines, que oui, Vladimir Poutine était intervenu. Donc Biden ne veut pas de ça, il s'adressera, comme il l'a dit, seul à la presse libre.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est des profils totalement différents. On va juste le rappeler en deux mots. C'est vrai que Joe Biden, on imagine que ça lui sert évidemment en ce moment avec cette tournée européenne. C'est un diplomate, c'est quelqu'un qui a l'habitude justement de la négociation. On imagine que ça a du poids justement aujourd'hui.
Oui, et c'est vrai que Biden, au contraire de Trump, au contraire d'Obama même, et même au contraire de George Bush, il aime ses sommets internationaux. Il y connaît tout le monde, il aime la discussion, il aime les poignées de main, il aime les tapes dans le dos. Il est solide, mais il est ferme dans ses positions. Mais il adore la diplomatie internationale, ça a quand même toujours été son dada, son bébé. C'est vrai qu'il parle aux Européens, mais il parle aussi aux Américains quand il voyage, et que là, il a tout bon vis-à-vis de son pays. En tout cas.
On attendra effectivement de faire la conclusion, mais on comprend qu'il est dans son précaré.
Voilà.
Merci beaucoup Nicole Bacharan d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Je rappelle, politologue spécialiste des États-Unis. Je rappelle votre dernier livre, First Lady, avec Dominique Simonet chez Tempus. Merci beaucoup
Merci
de nous avoir
vous.
Accompagnés. Et vous le savez, on va poursuivre cette tranche d'information à 13h avec les Carnets du Monde de Sophie Larmoyer. Un reportage rare à suivre dans un des pays de plus en plus fermés. Les Carnets vous emmènent en Biélorussie, où la répression s'est accentuée. La résistance au président Loukachenko est en sourdine, mais toujours bien là, exceptionnelle et à écouter absolument.